Los Acapulco, c'est un groupe de surf rock mexicain. Cette chanson, c'était Chica Yeye, groupe tout indiqué pour accueillir nos trois invités de cette émission. Les trois premiers de cette émission, Frédéric Chauffage, Julie Gilbert et Patrick Trèche. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. C'est un groupe mexicain parce que vous avez tourné au Mexique.
Ouais, mais on est loin du même Mexique là. Hein. Les Chica Yeye, c'est pas tout à fait dans la même ambiance.
C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, bon, nous tenions à rendre hommage à l'océan Pacifique qui borde la côte ouest du Mexique.
C'était pas loin.
Qu'est-ce que c'est qu'une mangrove ?
Alors la mangrove, c'est un écosystème qui se trouve toujours principalement sous les tropiques, là où les rios se jettent dans la mer. Et c'est donc souvent des palétuviers, ces arbres avec des très grandes racines. Et le flot de la mer et du marais monte et descendent et cache un écosystème très très riche, mais aussi des crocodiles, des oiseaux, une faune très 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 riche.
Qu'on peut voir par ailleurs et entendre dans votre film.
Alors une métaphore pour raconter quelle histoire, dites-nous.
Bon, ça serait surtout une métaphore pour dire qu'il y a toujours les choses du passé qui peuvent surgir à tout moment. Et le fil conducteur un petit peu de l'histoire, ça a été cette idée que le paradis peut devenir l'enfer. On sait qu'on est dans un paysage absolument sublime, il y a les palmiers, il y a la mer, mais en même temps, en fait, l'envers du décor, c'est que tout d'un coup, il faut cohabiter sur une plage, que c'est pas toujours facile, et puis si on arrive et qu'on est un étranger, comment ça se passe avec la population sur place. Mais ça reste un film plus poétique qu'explicatif.
Et contemplatif.
Donc c'est vrai que la métaphore de la mangrove, pour nous, c'était très important par rapport à ce titre, sur cette idée de qu'est-ce qui se passe sous l'eau trouble, en fait.
Ouais, parce que le principe de la mangrove, c'est que les arbres peuvent vivre à la fois dans l'eau salée et dans l'eau douce, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de toutes les plantes. Donc il y a le côté doux, amer, enfin on vit avec un secret que l'on porte et que l'on emmène avec soi. C'est un petit peu ça, la métaphore, en gros.
Ouais. Julie Gilbert, vous avez écrit, comment vous répartissez le travail ? Vous, c'est surtout l'écriture. En même temps, je crois savoir qu'il n'y avait pas vraiment de scénario. Comment tout ça a démarré ?
Alors ça a démarré avec une nouvelle, donc j'ai écrit une nouvelle, c'est vrai que c'est moi plutôt qui écris, mais ensuite on en fait même dans la part d'écriture, Frédéric il intervient beaucoup, c'est-à-dire on discute beaucoup de ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter, et après c'est vraiment lui qui réalise, et moi j'apporte de nouveau mon regard sur la réalisation. Donc on a décidé de signer à deux cette fois-ci parce que ça nous semblait important de montrer en fait qu'en tout d'un coup on peut aussi être dans le processus de création du début à la fin à deux en ayant des postes très différents.
Et parallèlement on est les deux producteurs également du film. Donc c'est vrai que c'est un objet organique dont on est un peu les artisans du début à la fin.
Et alors, pourquoi le Mexique ? J'imagine qu'il y a toujours des éléments biographiques que vous avez vécu au Mexique, je crois.
Oui.
C'est comme le film dont on va parler tout à l'heure, qui a été tourné en Argentine. Alors là, pourquoi le Mexique ?
Effectivement, moi j'ai passé mon enfance au Mexique. J'ai une partie de ma famille qui est mexicaine. Et il y a plus que de parler du Mexique ou de faire un film au Mexique, notre interrogation, c'était plutôt le rapport à l'identité. Les deux, finalement, on est traversés par une identité qui est multiple. On est né quelque part, on a vécu encore ailleurs et après dans d'autres pays. Donc on se sent toujours avec des morceaux d'identité de partout. Et pour nous, Mangrove, c'était aussi raconter ça. C'est-à-dire comment, finalement, qui on est, dans quel lieu et pourquoi.
Et c'est une histoire que vous racontez avec très peu de mots. Alors, question, combien de pages fait le script ?
S'il y en a.
Le script, je sais pas, la nouvelle, elle faisait 12 pages.
Ouais.
Le script, quand on l'a un petit peu adapté.
On n'est jamais vraiment passé au script. L'idée, c'est qu'on est toujours un peu en oscillation. On n'est pas à vendre, à promouvoir absolument un cinéma sans scénario. Mais le fait est qu'il y a toujours des projets qui prennent du temps et sur lesquels on fait une, deux, et on arrive jusqu'à 15 versions d'un scénario de 120 pages. Et là, au milieu, il y a toujours des sortes de coups de gueule en se disant « Eh, on a une super histoire de 12 pages, on achète un appareil de photo, on demande à 3 personnes de venir avec nous, et puis on va à l'autre bout du monde, on a de quoi payer l'hôtel et puis le voyage, et on tourne le film. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et même dans le scénario ou dans la nouvelle de Julie, il n'y avait aucun dialogue, mais par contre, beaucoup, beaucoup de soins à la description des ambiances, du lieu, des sensations, et c'est surtout ça qu'on a cherché à remettre en lumière avec Patrick, en images, en jeu avec Vimala, pour essayer de dépasser le texte, pour être dans les non-dits et puis être dans la sensation.
Alors je crois savoir que vous étiez parti pour un court-métrage, non ? Et puis que les sensations étaient tellement fortes que vous vous êtes dit on fait un long en cours de route.
Oui et non, ça c'est aussi pas des trucs de production, mais c'est très long et très compliqué de faire un long-métrage. Donc quand on dit on part avec, disons, 40 000 francs à l'autre bout du monde pour faire un film, alors qu'une production normale est à 3-4 millions, les gens vous disent, vous êtes fous. Si on dit c'est un long métrage, les gens ne nous parlent même plus. Si on dit c'est un court métrage, les gens
vont dire... Ah, vous avez caché la vérité.
C'est pas qu'on l'a caché, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple. On ne savait pas, on est parti. sans postulat, on n'avait aucune pression étant donné qu'il y avait pratique.
On savait même pas si ça serait un film.
Voilà, hein. On avait un soutien de base, la ville qui nous avait donné une bourse pour un projet artistique.
La ville de Genève, donc.
La ville de Genève. Après, la TSR, Françoise Maillot, on nous a dit, ah ben, c'est un court-métrage, moi je vous donne un coup de pouce et je le produis comme court-métrage. Mais à partir de là, on s'est dit, risquons les choses, on prend jamais assez de risques, on attend toujours des années pour pouvoir faire ça comme on veut, etc. Là, on prend le risque, on part, on risque rien, il n'y a aucune attente, et du coup, on peut aller bien plus loin que quand on a 4 producteurs, 5 télévisions, 6 pays, qui surveillent tout ce qu'on va faire, et du coup, on est pieds et poings liés. Donc là, on avait cette liberté-là, et on essaie d'en profiter au maximum.
Avec, évidemment, ça c'est le progrès technologique, des équipes très réduites, justement, parce que vous avez tourné avec un appareil photo, un réflexe d'aujourd'hui, qui permet de tourner en haute définition. Est-ce que la condition sine qua non pour faire ce film, c'était effectivement de tourner avec ces moyens numériques légers.
Patrick Tresch,
moi je crois d'abord que c'était le projet qui le permettait. On peut avoir tous les moyens qu'on veut. Si le projet ne permet pas, n'est pas en adéquation avec les moyens techniques qu'on choisit ou les moyens techniques avec les projets, ça ne marche pas. Et là, le projet, c'était 12 pages, mais il y avait il y avait 10 ans de travail sur un autre film qui ne s'est pas fait malheureusement, mais qui a complètement inspiré, imbibé aussi dans le choix des personnages, simplement, mais aussi le choix technique et aussi de l'histoire. Beaucoup de choses ont transpercé dans ce film Mangrove. Et c'était, elle me dit 12 pages, j'ai lu maintenant, j'ai l'impression que c'était 60 ou 100 pages que j'ai lues. Parce que il y avait des descriptions, il y avait de visuels et auditifs qui étaient tellement magnifiques et l'histoire a tout de suite plu, en fait. Donc les moyens techniques, oui, je pense que Mangrove n'aurait jamais pu être fait de cette façon-là, avec des moyens différents, mais on a dû adapter ces moyens techniques, soi-disant amateurs ou qui ne sont pas prévus pour le cinéma, pour en faire un film, que ce soit dans les choses techniques, du réglage de la caméra, de la maniabilité de la caméra. Et on a trouvé vraiment la bonne coordination entre le récit, la façon de le raconter, et les moyens techniques.
Mais c'est aussi un appareil qui a une tonalité, un rendu d'image assez particulier. Ça devient presque un genre en soi, finalement, de tourner avec un réflexe numérique.
Chaque caméra a sa particularité, et c'est pour ça que le choix est très important. Ouais.
Alors, il faut le dire tout de suite, moi je trouve que dès le premier plan, on est dans une immersion dans la nature qui est proprement stupéfiante, absolument magnifique. Il y a un climat qui nous rappellerait presque une sensibilité de cinéma asiatique. Alors, on est au Mexique, je sais bien, je ne veux pas faire des raccourcis, mais est-ce que vous vous êtes inspiré de ce cinéma d'auteur qu'on trouve aujourd'hui beaucoup dans le cinéma asiatique, contemplatif, qui donne énormément de place à la lumière, à l'ambiance sonore?
Alors l'inspiration, oui, elle vient de partout, elle vient... On parlait de déracinement, mais il y a le cinéma asiatique, il y a le cinéma sud-américain aussi, on en reparlera tout à l'heure avec Milagros, j'imagine, mais il y a du Lucrecia Martel, il y a du Lisandro Alonso, il y a du cinéma mexicain contemporain aussi, qui est aujourd'hui dans un style beaucoup plus contemplatif. Il y a Iñárritu d'un côté, mais il y a d'autres, comme Lactaoé ou d'autres réalisateurs ou films, où on est dans cette douceur et cette lenteur. Je crois que l'envie aujourd'hui, qui est en tout cas la nôtre, pour ce projet, après ça change pour chaque projet, et de donner confiance à l'image, de donner confiance au son, de donner confiance aux comédiens, aux personnages qui vont être incarnés dans cette histoire, et de dépasser le récit, le
ça fait pas peur, champ. Ça vous fait pas peur, ça, quand on est dans ces débats, toujours, ce cinéma d'auteur qui risque d'ennuyer le spectateur, ce cinéma suisse qui a de la peine à...
Que tu redises la bonne phrase de Pasolini qu'on a déjà dit hier.
Oui, voilà. Oui. Alors, la culture est une résistance au divertissement.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire faire fonctionner les têtes, donner à penser, donner à réfléchir. Et puis, c'est vrai qu'avec un court-métrage qu'on a présenté il y a 6-7 ans, Locarno, quelqu'un nous a dit tout de suite, c'était à la radio, oui, alors votre film est un peu long, est-ce que c'est pas juste du cinéma suisse? Aujourd'hui, si on regarde le paysage roman ou helvétique, on a des films qui sont plutôt à se concurrencer à un montage très frénétique, alors qu'on va regarder justement du cinéma asiatique, on va voir des films de partout dans King Kidook, où on est dans une lenteur qui n'a plus rien à voir avec Wapi Chapong, qui n'a plus rien à voir avec le cinéma suisse aujourd'hui.
Il y a quand même une chose qui est assez frappante dans la façon dont vous représentez la nature, puisque très brièvement, l'héroïne revient sur les lieux au Mexique où elle a vécu avec un enfant, qu'elle est avec quelqu'un dont on comprend assez vite qu'il a disparu. On ne dira pas comment, pourquoi. La nature, elle est présentée, même si l'image est très très belle, semble-t-il, de façon assez hostile. Il y a quelque chose d'assez hostile dans cette nature, un petit peu comme quand Terrence Malick, en pleine guerre, filme les arbres, comme si la nature avait la volonté de se venger de l'homme, d'une certaine façon. Ça, c'est dû à quoi? C'est quelque chose que d'abord, est-ce que je vois juste les choses? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez voulu montrer la nature de cette façon-là? L'alternance lumière, nuit, jour, hostilité, soleil, joie, plage.
Alors, c'était déjà sur l'écriture de la nouvelle de Julie, qui était très présente. Et on l'a retrouvée, en effet, au tournage. Et c'était vraiment, Julie a parlé tout à l'heure du passage du paradis à l'enfer, et le plus bel endroit du monde. Et ces plages-là, donc, qui sont aussi politées, toute cette côte extrême, vraiment du sud Pacifique de Mexico, Puerto Angel, sont des endroits où les babacools ont débarqué dans les années 70, puis 80, pour aller vivre, fumer des pétards, avoir de la coke pas chère, etc. Et aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui sont toujours là-bas, complètement crochées, une sorte d'épave, plus des personnes qui arrivent maintenant avec des surfs dans une nouvelle génération.
Et les noyades, c'est-à-dire que c'est quand même le lieu, moi c'est le premier endroit où j'ai vu quelqu'un se noyer devant moi, où on peut rien faire. Et c'est vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a cette mer magnifique, tout le monde est beau et jeune et boit des cocktails. Ouais. Et en fait, de l'autre côté, c'est une mer avec des courants extrêmement violents. Et donc la nature qui est plus forte que l'homme et qui dit, venez profiter, mais on discute quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là, et la mangrove c'est la même chose, c'est que c'est magnifique mais c'est peuplé effectivement d'animaux pas hyper sympas a priori.
Alligators et autres.
Ouais voilà,
petits insectes ouais, voilà. Agressifs.
Donc il y a eu des histoires pendant le tournage, deux semaines avant, quelqu'un est mort dans la mangrove, le premier week-end où on était, quelqu'un s'est noyé dans les vagues. Donc c'est donner un respect aussi à cette nature qui est plus forte, qui est là pour la beauté mais qu'on doit respecter aussi dans l'autre sens, hein, sans aucun message dans cette direction dans ce film-là. Mais voilà, c'est ce... On est là en admiration totale, mais avec un respect immense.
Film assez conceptuel, on peut le dire, assez court également, dont la musique est signée Pierre Odetta. Pierre Odetta, qui est un musicien lausannois bien connu, qui a participé à des tas de projets, dont un avec lequel il tourne beaucoup. Ça s'appelle Stade. Voici Worldwise, Pierre Odetta.
Check the transmission.
La première, à première vue.
Check the connection. Worldwide. We don't conform to no standards, to no transfer protocol. To no predefined format, where we connecting soul to soul. Alive and direct, Joe. Worldwide. Starting now, you're hooking up to spread the real vibe. Worldwide. We got the connections, we got the contacts, the links, and we're gonna network it out. You know that's how we run things. In international circuits, we do it in perfect sync. Now let us all get together before we all extinct. We all got a direct connection to heaven and its broadband. There's no need for a modem or a software to be installed beforehand. Now you can forget your username, your password, cause we don't give a damn. You just enter as you are, cause this is a one-line program. We can simply download massive good vibrations firsthand to configure our mindset correctly and then filter out the spam. We upload a whole hard disk to be shared by fellow man. Now see, we don't chat, we communicate to better understand. We are perfect specimen of open source architecture. We grow on all kinds of components if no virus is detected. You see, files not found is not a star. You just get redirected. And we won't interrupt the love stream like the pilgrimage in Mecca. We got that super fast soul driver. Mother Earth is our provider. We hack into any type of system, passing right through walls of fire. No hypertext, no cybersex, just words of love and wisdom. See, my Uzi weighs a terabyte now. Check the transmission. We got the connections, we got the contacts, the links, and we network it out. You know that's how we're running things. In international circuits, we do it in perfect sync. Now let us all get together before we all extinct. We got the connections, we got the contacts, the links, and we gonna network it out. You know that's how we're running things. In international circuits, we do it in perfect sync. Now let us all link up before we all extinct. Worldwide. Running things. Worldwide. All directed.
Worldwise, c'est Stade. Stade est un projet de Pierre Odetta, musicien multitalentueux qui officie dans tous les genres musicaux ou presque. Il signe la bande originale du film Mangrove dont nous parlons aujourd'hui en compagnie de Frédéric Chauffat, Julie Gilbert et Patrick Treich. Voici un extrait de ce film.
Il y a beaucoup de gens qui se font emporter par le courant en nageant partout.
Ouais, les touristes.
Il y a quelques années, un gars du village s'est noyé. Il a été emporté par le courant. C'était un bon nageur. Un très bon nageur. Ma mère l'a ramené quelques jours après. Très bon, très bon. Manger par les poissons.
C'est qui t'a raconté ces conneries?
Quand quelqu'un se noie, tout le monde le sait ici. C'est un petit village.
Vima Lapons, que vous venez d'entendre, qui est la comédienne principale du film, lui donne la réplique, un autre comédien non professionnel. Et c'est une des particularités de ce film aussi, c'est la présence de professionnels et de locaux, appelons-les comme ça, qu'ils soient mexicains par ailleurs ou européens ou venus d'ailleurs. C'est bien ça.
Oui, et c'est même pas des professionnels non comédiens, c'est des comédiens non professionnels, je voulais dire, c'est des non comédiens. Enfin, ils sont pas comédiens dans la vie réelle, ils, sont, ils habitent là, ils viennent de là. Et... Voilà.
Vous les avez choisis comment? Alors justement, vivant là-bas, en les rencontrant par hasard?
Bah en fait, on a passé 6 semaines dans cet endroit, San Agostinho. On est arrivé avec l'histoire et effectivement, on a fait notre casting au fur et à mesure. Mais c'est vrai que moi, je connaissais quand même très très bien ces endroits, donc je savais à peu près qui j'allais pouvoir rencontrer. Après, le gros défi, c'était de savoir s'ils allaient être d'accord de jouer, si ça allait fonctionner, s'ils allaient être crédibles. Et la plupart, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'en fait, ils étaient à fond dans le rôle et ils ont joué des choses très très proches d'eux-mêmes. Donc du coup, bah, voilà, on est quasiment là dans le documentaire. Moi, je sais pas, tu veux parler?
Non, dire que tu connais très bien cet endroit, mais il y a 15 ans aussi. Donc quand ces personnes-là, on les connaissait pas du tout en arrivant. Mmh. Mais on avait quelqu'un sur place qui nous avait... En fait, tout est parti d'amis qui ont acheté une possède là-bas. Et on s'est dit, ah, qui c'est qu'il y a dans le coin? Envoie-nous des photos. Et puis sur place, on choisit et on regarde ce qui se passe.
Il y a comme dans ce film, alors à la fois effectivement une fiction, c'est-à-dire qu'on retourne, enfin l'héroïne retourne avec son fils sur ces lieux qu'elle a bien connus, dans lesquels elle a rencontré fatalement ces Européens que l'on peut croiser au bout du monde, parfois échoués, parfois de manière très lamentable par ailleurs, dans ce qui peut ressembler au paradis. Et dans ce film, vous faites jouer ces Européens-là que vous montrez ou que l'on a pu voir ici ou là lors de nos voyages respectifs. Il y a une sorte de film dans le film, ou de véracité peut-être, qui s'inscrit plus fortement sur l'écran, dans la mesure où ces comédiens-là, on se doute bien qu'ils ont un parcours qui n'est pas tout à fait normal ou banal, non?
Bah c'est sûr que s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils avaient aussi un idéal à un moment donné et que peut-être l'idéal s'est écroulé. Alors pas pour tous hein, quand même, mais parce qu'il y a quand même plusieurs générations. Hein, c'est ça aussi qui est... C'est vrai qu'il y a donc celui qui joue le franco-mexicain, Fabián Tellezcao, et qui lui, en fait, figure la nouvelle génération de ces gens qui vivent, par exemple, au bord des plages. Et puis il y a une génération plus ancienne qui a échoué, mais qui ont des histoires incroyables. Enfin, ça donnerait presque envie de faire des films de nouveau sur leur parcours, parce qu'effectivement, ils ont vécu 12 vies et finalement, ils sont arrivés là et on n'est pas sûr qu'ils en repartent.
Et puis, c'est l'envie aussi, à travers nos histoires et les personnes qui les incarnent, de parler justement de ces destins qui ont de l'épaisseur, qui ne sont pas que des comédiens qui sortent toujours du même conservatoire ou de la même école ou de la même filiation, puis qu'on parachute quelque part et qui font de l'acteur studio, mais d'un coup, qui sentent quelque chose. Absolument.
Alors, Vima Lapons, donc, qui tient le rôle principal, elle sort pas de l'acteur studio, mais comment vous l'avez?
Elle sort du Conservatoire National à Paris, et là, par exemple, c'était vraiment le choix d'une comédienne pour laquelle on a eu un coup de cœur total. On l'a déjà rencontrée plusieurs années pour un autre projet, on l'a castée à plusieurs reprises, et c'était vraiment l'envie de travailler avec elle, et d'aller au plus loin dans la construction de ce personnage, qui est vraiment un personnage de composition, mais, voilà, de le,
Et puis c'était vraiment magnifique de travailler avec elle, parce que pour elle c'était quand même assez costaud d'arriver, en fait, d'être parachutée au Mexique où elle avait jamais mis les pieds, et tout d'un coup de rentrer justement en jeu avec des gens qui ne sont pas du tout comédiens, donc où on pose sa limite, comment on construit le personnage ensemble. Et elle a été vraiment incroyable dans la finesse de son travail.
C'est une question qu'on aimerait lui poser, mais comment les comédiens réagissent face à une caméra qui n'est pas une caméra, justement?
Alors, ils sont un peu désarçonnés, en effet, parce que bon, cette caméra, on peut l'équiper avec beaucoup d'accessoires autour et ça ressemble finalement à une vraie caméra, mais on perd toute la légèreté et la finesse de ce qu'elle permet, justement. Mais c'était assez drôle parce qu'en fait, comme on a un travail où l'image est très... Enfin, moi, j'étais au cadre et l'idée, c'était vraiment d'entrer dans le personnage. Il y a des moments de perdition, il y a des moments de flashback, des moments de retour dans son intérieur, dans sa tête, dans son passé. Et l'idée, c'était vraiment qu'on entre à l'intérieur d'elle-même, qu'on entre dans ses pensées. Et par moments, il fallait vraiment construire le jeu, construire ce qui allait se passer. Et puis d'autres moments, on était sur le bord de la plage avec l'eau pratiquement jusqu'à la taille qui déferlait et qui nous fouettait les mollets. Et puis tout d'un coup, elle disait, on se parlait plus. Et elle regardait l'horizon et moi, je filmais en étant autour. Et puis les trois personnes de l'équipe technique, et Julie et Patrick et Christiane au son, on était là et tout le monde tournait en même temps que moi. Et c'était plus qu'une sorte de danse ou de scène de séduction comme ça sur la plage. Une sorte d'émulsion plutôt, voilà, qui se prenait et qui se passait là autour. Et la légèreté de cette caméra faisait que tout d'un coup c'était un dialogue muet, corporel qui se passait.
C'est ce que vous vouliez pour ce film. En conclusion, c'est quelque chose de très palpable à l'écran. Il y a peu de dialogue, on le rappelle, et donc il faut que la matière elle soit bien présente.
Oui, c'était vraiment, voilà, on dirait chaque fois revenu, moi j'ai le terme organique, où tout fait part d'une seule chose, et puis l'adéquation dont parlait Patrick tout à l'heure, légèreté de récit, légèreté de matériel, légèreté de technique, légèreté financière, pour ce projet qui le demandait de cette façon-là, sans être pour autant, de notre point de vue, un film qui ne dit rien. Il y a peu de paroles, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'évoquent, et on a une vraie histoire qui est traversée, un vrai destin qui se déroule là au milieu, et le but n'est pas d'être juste... Voilà, c'est pas un long plan conceptuel sur le bord de mer, pour rassurer.
Il y a une intrigue, quand même.
Et il y a normalement une tension.
Mais sacrée aventure quand même, quand vous racontez toute la genèse de ce projet, et puis aujourd'hui en compétition officielle à Locarno, ça a été une surprise. Comment ça s'est passé la rencontre avec Olivier Père et cette sélection?
Alors c'est sûr que c'était une surprise, c'est toujours une surprise, on sait jamais un film qu'est-ce qui va devenir, on est toujours tous dans la même situation de faire des projets et on regarde, et parfois on tombe à côté, et parfois on tombe au bon endroit, et on tombe au bon moment, et il y a toute une alchimie de plein de choses qui fait que ça se passe, on sait jamais quelle est qu'est-ce qui est subjectif, qu'est-ce qui est objectif là-dedans. Olivier Père, je l'ai croisé une première fois en janvier au Festival Soleur en lui disant
Soleur, ouais.
Voilà, j'ai un film, bien enchanté, je te l'envoie dans un mois, ok, pas de problème, envoie-le. Et il l'a vu en projection à Zurich, et en sortant il a dit voilà, ces trois je le prends pas, le quatrième je le prends. Et puis on a attendu confirmation, après il nous a dit j'attends encore, et puis je vous le confirme dans un mois, et un mois plus tard, c'était un petit peu avant Cannes, il nous a dit ok, je le prends en compétition internationale.
Et donc à partir de là, comment vous vous êtes senti? Frétillant, heureux, angoissé?
C'est la gloire, non?
Ça change rien.
C'est un peu comme
non,
un bébé.
Ce qui est génial,
avancer,
c'est
quoi,
que voilà, on sait tellement pas.
Seul,
voilà. Et puis surtout, on sait tellement pas. C'est tellement la chance tout d'un coup qu'un film soit un petit peu sous la lumière. Et c'est vrai qu'un film comme ça, qui est quand même particulier, qui a un format particulier, enfin toute l'histoire qu'il a, il aurait pu tout à fait avoir une vie beaucoup plus, on va dire,
aléatoire. Enfin, il y a des circonstances qui font.
Voilà. Et c'est vrai que là, c'est magnifique parce qu'on n'imaginait pas que ce film, il arriverait à Locarno en compétition internationale.
Et c'est cette impulsion qui fait que le film sort la semaine prochaine en salle. Donc du coup, profiter de l'élan pour le sortir, même si voilà, c'est un film qui donne à penser, ou on demande aux spectateurs de penser aussi. Et voilà, c'est un film, et après il y en aura d'autres. Il y a plein d'autres films qu'on n'a pas la chance de voir, mais qui sont tout aussi bien.
Vous auriez, en guise de conclusion, vous auriez aussi pu faire un autre film qui était quasiment animalier, nous avez-vous dit.
Ah, ça c'est méchant.
Non. Mais non.
Ce n'est pas animalier, Pierre-Philippe, justement.
Non, on a dit qu'on a rencontré une nature tellement folle et tellement incroyable, avec en effet des dauphins, des baleines, des alligators, une richesse. Que si on s'était lâché dans le montage, on aurait pu en effet choisir tous ces beaux moments, mais le film n'aurait plus rien raconté, on s'éloignait totalement de notre récit. Et nous, c'était vraiment, on parle du destin d'une femme là au milieu, en confrontation à tout ça, mais c'est vraiment cette femme avec son enfant qui débarque là, et c'est ça, voilà, on reste plus attaché à l'histoire humaine qu'animalière.
Donc présentation demain?
Demain, oui, à 16h au Févi, ici, dans une salle de 3000
Apple
personnes.
Apple Track, quand même. Ouais. C'est quand même impressionnant.
Oui, bah oui. On a regardé Milagro hier.
On est très, très bien sortis. Voilà.